Alors, Rabotai, ça fait plus de. Donc, ça fait deux semaines. Notre dernier cours remonte à deux semaines. Donc, je voudrais faire un petit résumé rapide de ce qu'on a étudié dans le chapitre, dans le chapitre 37. Bien que je vois que tout le monde était déjà là.
Non.
Bah, au Hachem, pratiquement. Donc, on va quand même faire un petit résumé. Dans le début de ce grand chapitre qui est le chapitre 37, Morazaken a commencé à expliquer un sujet très important. Expliquer l'avènement messianique. Pourquoi on travaille? Pourquoi on attend quoi? On attend quoi? À quoi ça sert? Alors on a expliqué la chose suivante. On a expliqué un très grand ridouche. On a dit que la perfection messianique dépend de nos actes. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de l'ampleur, bonsoir, de l'ampleur du ridouche qu'on a expliqué. Les gens pensent que Mashiach est un salaire pour des bonnes actions qu'on a accomplies. Tout le monde pense comme ça. Que tu te comportes bien, et arrive le jour dans lequel le patron vient et te dit « Bon, ben, c'est arrivé le jour de la paye. » Mais on a expliqué un très très grand ridouche, qu'on a commencé seulement à développer, qu'en fait c'est beaucoup plus qu'un salaire. Mashiach est un résultat. Mashiach est un résultat. De nos jours, lorsqu'on est en train d'accomplir les mitzvot, on a expliqué, on construit. Sans se rendre compte, on construit. Alors je vous avais même un peu rendu fou la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais donner des exemples pour expliquer comment, sans se rendre compte, chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on va faire une beracha, chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va sanctifier et élever la matière. Donc ça, on l'a expliqué longuement. Et en fait, nous, on ne voit pas ce qui se passe en coulisses, mais on est en train de changer le monde. Et lorsque Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer le résultat de ce qu'on a fait. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. D'ailleurs, on avait illustré ça par une très belle phrase du Pirkei Avot. Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Comment on peut expliquer ça? Que le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. On a dit, c'est très simple. On a dit parce que le plus beau salaire d'une mitzvah, c'est lorsque Dieu va me montrer, voilà ce que tu as construit. C'est le plus beau salaire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Donc c'est pour ça, lorsque les gens demandent, posent des questions, ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour approcher l'avenue de Mashiach? Et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On leur dit, ne croyez pas que Mashiach, ça va venir tout seul. Mashiach ne viendra pas tout seul. Mashiach, c'est un moment dans lequel Dieu estime que le monde est assez prêt, que nous sommes assez prêts pour qu'il ouvre le voile. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans une pièce de théâtre. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans une pièce de théâtre? Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez devant vous?
Le rideau.
Il y a peut-être une musique de fond et un rideau. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a, il y a rideau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière le rideau?
Les acteurs, ils se préparent.
Ils se préparent. Est-ce que vous les voyez?
Non.
Mais vous imaginez que lorsqu'on va ouvrir le rideau et que vous allez voir une scène, cette scène, elle ne va pas commencer. Elle n'a pas commencé au moment où les rideaux sont ouverts. D'accord? Cette scène a commencé bien longtemps avant. Il y a eu des préparatifs. Et ils se sont préparés avant, ils se sont entraînés. Et même, le soir même, quand vous les voyez déjà en place, c'est que ça fait déjà plusieurs heures, ou plusieurs minutes, ça dépend, qu'ils sont là en train de se préparer. Simplement, toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, pour l'instant, tu vois qu'un rideau, tu vois rien. Mais dès qu'on ouvre le rideau, c'est là que tu vois, c'est là, d'ailleurs, c'est une cérémonie, l'ouverture du rideau. Dès qu'on ouvre le rideau, c'est là qu'on voit ce qui se passe. Ben, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un très bel exemple, bonsoir, pour expliquer ce qui se passe avec Mashiach. En fait, maintenant, on construit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans le théâtre, les acteurs sont derrière le rideau et les spectateurs sont devant le rideau. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. L'acteur, il se trouve d'un côté, les spectateurs sont d'un autre côté. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'acteur, il se trouve d'un côté du rideau, mais il agit sans se rendre compte de l'autre côté du rideau. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez en bataille?
On répète.
Je reprends. Là, c'est un exemple intéressant que j'ai entendu une fois d'un rave. Il dit comme ça. Il dit, nous, quand on va à une scène de théâtre, d'accord? Il y a un rideau. Le rideau, il sépare entre qui et qui? Le rideau sépare entre nous et les acteurs. Il y a les spectateurs qui regardent, il y a les acteurs qui se revinent. Donc, lorsqu'on ouvre le rideau, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les spectateurs peuvent voir les acteurs. Très bien. Donc là, il y a quand même deux choses différentes. Il y a le spectateur et les acteurs. On a imaginé que par rapport à ma chère, c'est un peu différent. Les spectateurs et les acteurs, c'est la même personne. Ça veut dire qu'en vérité, il faudrait imaginer quelque chose comme ça. Le spectateur, il est assis sur une chaise. Et il doit appuyer sur des boutons. On lui dit appuie là, appuie pas là, appuie là, appuie pas là. Mais lui, il voit rien, il se passe rien, il voit un rideau devant lui. Et à un moment, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, maintenant que tu as vu ça, maintenant que tu as appuyé sur le bouton, maintenant on va voir le rideau. Et on va te montrer ce que tu as construit. Ça veut dire que là, celui qui croyait être spectateur se rend compte qu'en vérité c'était un acteur. C'est ça le switch quand Mashiach arrive. Le switch lorsque Mashiach arrive, c'est que moi qui croyais être spectateur, je deviens acteur. Donc vous voyez ce que je veux dire? Là, on croit qu'on est spectateur. Là, on se dit, bon, finalement, que ça change. Je mets les tefillines, je mets pas les tefillines, etc. C'est pas ça ce qui va faire le monde. Ça va pas changer le monde. Non. Tu dis, l'actualité, c'est que Fillon, il est passé. D'accord? Je dis, maintenant, mets tefillines, pas mets tefillines, ça change rien. Eh ben, on te dit non.
Non.
Hein? Il est déjà passé, non?
Non.
Quoi? Ah oui, bah, d'accord.
Bon. Il y a un deuxième tour. Oui, mais c'est dommage qu'on n'a pas les conditions que... D'abord, quels sont les critères, quelles sont les conditions qu'on doit remplir, une liste, un cahier des charges, quoi. Bon, parce que là, on est un petit peu, dans le vague. Il faut faire mitzvot, il faut pas faire. La mitzvah, c'est la mitzvah, tout ça. Bon, ben tout ça, c'est joli, mais bon.
Le mode d'emploi, c'est la Torah.
Le mode d'emploi.
Oui, mais depuis.
Monsieur Benita, vous avez un micro-ondes à la maison?
Depuis combien de temps?
Répondez à ma question, s'il vous plaît.
Oui,
est-ce que vous avez un micro-ondes à la maison?
Oui.
Mais comment vous faites quand vous voulez chauffer un plat?
Je mets dedans et j'appuie sur...
Attendez, expliquez-moi, parce que je suis un peu bête. Expliquez-moi.
Donc,
vous branchez la prise.
Non, il est déjà branché. Bon, j'appuie sur un bouton, ça tourne, voilà. Et ça chauffe.
D'accord. Maintenant, est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne, le micro-ondes?
Oui. Ah. Non, il y a...
Non,
des...
vous comprenez pas. Seulement, vous avez eu un mode d'emploi. Ce mode d'emploi vous a dit, si tu veux chauffer, si tu veux décongeler, il faut appuyer sur ce bouton. Tu veux chauffer, il faut appuyer sur ce bouton. Si tu veux chauffer très fort, il faut appuyer sur ce bouton. C'est tout.
Ouais.
Maintenant, moi, j'en sais rien ce qu'a fait la machine par derrière. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai mis mon plat, j'ai réglé décongélation, et je l'ai repris, il est décongelé. Maintenant, comment il a fait? Est-ce qu'il a envoyé des ondes? Est-ce qu'il n'a pas envoyé des ondes? C'est pas mes affaires.
Ça vous rend dans la technique.
Donc, ce que je vous montrais par ici, c'est quoi? C'est que, à un moment, il faut avoir confiance au mode d'emploi.
La technique.
Sauf qu'il y a une différence. C'est que dans le cas du micro-ondes, vous voyez le résultat. Là, ce qui vous dérange, M. Benita, c'est qu'on voit pas le résultat. C'est-à-dire, on vous dit appuie là, appuie pas là, celle-là, ça décongèle, là, ça congèle, mais tu vois pas le résultat. Dis à ma chère, reviens, tu vas voir.
En fait, tu comprends. Ah ouais, mais enfin, c'est quelque chose qu'on nous dit de faire depuis plus de 3000 ans. Ça finit pas, cette affaire-là. C'est sans fin.
Bonsoir. Vous voulez changer de religion?
Non, mais j'essaye de comprendre.
Ah, il est pressé, très bien.
Et il dit comme le rabbi, we want ma chère Nao.
Oui, il dit, Admatai, jusqu'à quand?
Eh ben oui.
Voilà, très bien. On plaide pour la même cause.
Voilà.
Baruch Haba, bienvenue au club. Avec le temps, il devient Rabat en civil. Jusqu'à quand? C'est une bonne question. Donc il dit comme ça. Là maintenant, on va essayer d'expliquer comment on change le monde. Ça c'est la question. Votre question est une très bonne question. Comment on change le monde aujourd'hui? Comment aujourd'hui on change le monde? C'est à la mode aujourd'hui. Les gens, ils aiment parler de changement. En Amérique, il y a le changement, ici, il y a le changement, ça, c'est le changement. Les gens, ils veulent du changement. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent du changement.
Ouais,
comment on change le monde?
Putain.
Alors, la semaine dernière, ils veulent du nouveau, ils veulent du changement.
Ils savent pas ce que c'est. Putain, raison.
Alors, on a commencé à expliquer la semaine dernière. On a commencé à expliquer la semaine dernière que chaque fois que je fais une mitzvah, je change l'objet. D'accord? Par exemple, là, devant moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fond de Schweppes. Ce fond de Schweppes, lorsque je vais le boire, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie qu'il y a dans ce fond de Schweppes va monter chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une énergie qui attend dedans. Parce que s'il existe, c'est qu'il y a une énergie dedans. Lorsque je vais le boire, et que je vais l'utiliser pour faire mon cours de Torah, l'énergie qu'il y a à l'intérieur va monter chez Akadosh Baruch Hu. Alors je sais que ça peut rendre un peu fou ce que je vais dire. Mais maintenant, on va avancer un petit peu s'il vous plaît. On va donner quelques exemples. On va donner quelques exemples concrets pour montrer ce qui se passe en coulisses par rapport à plusieurs choses que nous faisons. Et vous allez voir, je vais donner plusieurs exemples de choses mondaines que nous faisons sans nous rendre compte. Et on va t'expliquer comment, sans te rendre compte, en faisant cette mitzvah, eh bien, il y a des choses qui se passent derrière. D'accord? Donc je ne dis pas qu'on va forcément comprendre, parce que forcément ça nous dépasse, mais c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses. Alors vous allez me dire, vous allez voir quand on va au cours d'aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais M. Benita, je l'attends en tournant, il va me dire, oui, mais à quoi ça sert si on ne le voit pas? Alors, je vais vous raconter une histoire. Le rabbi de Tzemar Tzedek. Une fois, il entendait de sa chambre des chassidim en train de parler. Les chassidim, ils sont dans le Batamidrash en train de parler. Et il entendait les chassidim en train de parler et de se poser la question, comment ça va se passer lorsque ma chère va venir? D'accord? Et les chassidim, ils parlaient, hein, il avançait quelque chose, il avançait quelque chose. Ils disaient, mais comment ça va se passer? Et à quoi ça sert? Comment ça va se passer? Comment ça va, comment on va le savoir? Et comment ça va venir? Et là, le rabbi de Saint-Marcellec, soudainement, sans prévenir, il rentre dans le Tamidrash, et il dit, c'est comme ça que ma chère va venir.
À l'improviste.
À l'improviste. Attendez, mais il n'a pas fini. Maintenant, il dit, je vous ai entendu parler, mais il dit, mais à quoi ça sert? On est en train d'essayer de comprendre, etc. De toute façon, on est à côté de la plaque. Alors, écoutez ce que le rabbi de Saint-Marcellec leur a dit. Très, très belle image. C'est une image que j'ai entendue, je crois, quand j'avais 14 ou 15 ans, mais elle m'a marqué. Le rabbi de Saint-Marcellec leur a dit comme ça. Il leur a dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce et vous entendez une discussion qui se passe dans une autre pièce? Maintenant, la discussion, vous n'étiez pas forcément destiné. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes dans une pièce. Par exemple, au bureau, on va simplifier les choses, hein, on ne va pas rentrer les voisins, bon, voilà. T'es dans un bureau, t'entends, maintenant, il y a une pièce à côté, une pièce attenante, t'entends une discussion. T'entends, mais t'entends des bribes. Tu comprends pas trop ce qui se raconte. Ok? Mais t'entends un mot par-ci, un mot par-là, un mot par-ci, un mot par-là. Mais tu comprends pas. Ensuite, quelques heures plus tard, t'as un ami qui est de la pièce d'à côté qui vient te raconter. Il dit, tu sais, dans la pièce d'à côté, voilà de quoi on a parlé. On a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Alors là, il y a un phénomène intéressant. C'est le phénomène du aha. Aha. C'est quoi le phénomène du aha? Tu vas pas lui dire, mais dans ta tête, tous ces bribes de mots que tu as entendus, que tu comprenais pas, là, tout d'un coup, avec ce que la personne t'a expliqué, tu vas réussir à le remettre dans le contexte et comprendre ce que ça voulait dire. C'est le aha. C'est-à-dire, tu comprends ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'avant, t'as entendu un mot par-ci, un mot par-là, mais tu comprenais pas trop ce que ça veut dire. Et là, quand on te l'a expliqué, comme ta tête était déjà prête, donc du coup, tout de suite, tu comprends au quart de tour, parce que, en fait, t'avais déjà les bribes, mais il te manquait le puzzle. Donc là, on va t'aider à recomposer le puzzle.
C'est Twitter, ça.
Alors, le rabbi de Saint-Marcellec, il a dit, c'est exactement la même chose par rapport à ma chère. Exactement la même chose. Il a dit, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque, nous, aujourd'hui, on est là, on apprend Chassidut, on vient à des cours de Tania. On entend des bribes d'informations, comme on entendra ce soir. Je préfère vous préparer. On va entendre des choses, la vitalité qui s'élève, là, avec un animal, mais on entend des bribes. Il y a des gens qui préfèrent ne pas venir au cours de Tania. Ils disent, moi, si je comprends pas, je préfère ne pas venir, j'attends, comme j'ai à venir, on comprendra directement. Nous, on vient, on est là, à un cours de Tania, on essaye de capter des bribes. C'est comme si qu'on est en train d'essayer de capter une information qui se passe dans le mur derrière. Et on comprend sans comprendre, en vérité. Vous êtes d'accord avec moi?
Non, mais...
On comprend sans saisir, on va dire comme ça. Ça nous dépasse. Sauf que, lorsque ma chère va venir, et que là, Dieu va ouvrir le rideau, là, étant donné que nous, on est déjà en train d'essayer d'imaginer ce qui se passe de l'autre côté du rideau, on va tout de suite capter.
On est préparé,
parce qu'on a entendu des mots par-ci, des mots par-là, mais on n'a pas vu. Mais dès que Dieu va ouvrir le rideau, on dit, ah! Mais c'est ça ce que Mendy nous parle au cours de Tania. Ah, maintenant, je comprends! Mais celui qui est jamais venu au cours de Tania,
ça se met en place.
Eh ben, il devra tout découvrir! Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que nous, maintenant, on essaie maintenant d'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Voilà. Donc
là. Enfin, cette affaire-là, ça peut aussi démotiver celui qui vient régulièrement, qui entend tout, et qui voit rien venir.
Au contraire.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe là?
Alors, on continue. Voilà. Donc ça, c'était une introduction. Pour expliquer ce qui se passe.
Attends.
Pourquoi aujourd'hui on étudie des choses comme ça?
Prends le temps.
On étudie des choses comme ça qui nous dépassent? Parce que c'est pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui va se passer lorsque ma chère va venir. On va continuer. Alors, on va prendre la page 140. Vechen, pareil. La page 140, Vechen. Deuxième, pareil. Vechen, il en est de même. Koach nefesh achiyunit abehemit, la force de l'âme vitale animale, shebevare gufa adam, qui se trouve dans les membres du corps de l'homme, amekayem a mitzvah, qui accomplit la mitzvah, ou mitlabesh gamken baasiyazo, il s'habille également dans cette action. De quoi il parle? On va reprendre mon vers. D'accord? D'où il atterrit ce vers? Bon, on va prendre un truc un peu plus compliqué. Voilà, j'ai ici un chips que je vais manger tout à l'heure, Bezrat Hashem. Comme ça, il ne me fait pas d'histoire. D'accord ? Blinéder. Ce chips, c'est quoi ? D'où il vient ?
La pomme de terre.
C'est pomme de terre.
La pomme de terre.
Ok.
D'où elle vient ?
D'où elle vient, cette pomme de terre ?
De la terre.
C'est par terre.
De la terre. Ah. Maintenant, d'où ça vient de la terre ? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ?
Quelqu'un
qui a semé. Maintenant, d'où, avec quoi on a semé ?
Des graines.
Avec une graine. D'où vient cette graine ?
D'une
autre pomme de terre. Et d'où vient cette pomme de terre ? On arrive jusqu'à où ? Jusqu'à la création du monde. D'accord ? Très bien. Mais là, je me suis arrêté uniquement sur l'objet. Et on a expliqué longuement le dernier cours, ça fait 2 semaines, que en prenant une simple chips, je suis en train d'élever la matière de toutes les pommes de terre du monde jusqu'à la création du monde. Parce que dans cette chips, il y a une énergie qui provient, si je trace, on parle de traçabilité aujourd'hui, qui remonte jusqu'à Adam Harishon. Très bien. Sauf que là, je m'arrête que sur la chips. Maintenant, on va oublier la chips. On va parler de l'homme. Comment j'ai pris cette chips dans la main ? Avec quoi je l'ai prise ? Avec ma main. Maintenant, ma main a une vitalité. Parce qu'un homme qui est mort, il ne peut pas attraper une chips. Donc, si moi j'attrape la chips, et que je la bouge, comme ça, je la tournoie dans les airs, d'accord ? Ça veut dire que je prends la vitalité qui est dans ma main. Alors, d'où vient cette vitalité de ma main ? D'accord, mais d'où ça vient, ça ? Ça vient de l'âme divine ou de l'âme animale ? Non ?
Côté matériel.
Mais on peut...
Attendez, répondez à la question.
Côté matériel, animal.
Le fait que je prenne cette chips...
Manger.
Avec
manger
ma main. Ça vient de l'âme divine ou de l'âme animale ?
Pour l'instant, l'âme animale.
C'est pas mauvaise, elle est pas mauvaise, c'est l'âme animale. D'accord. Cette âme animale, elle est en aide de l'énergie, vous êtes d'accord avec moi ? Lorsque je vais prendre cette chips, d'accord ? Et que je vais la manger, quel membre de mon corps va manger la chips ? D'accord, quel membre ? Je vais commencer par la bouche. La bouche, elle est alimentée par l'âme animale ou l'âme divine ? Elle est alimentée par l'âme animale ou l'âme divine ?
Normalement, c'est l'âme
divine. L'âme animale, pas du tout, il n'y a pas d'âme divine. Elle est alimentée par l'âme animale. Ensuite, je vais mâcher, je vais manger, je vais l'avaler, ça va passer par tous mes membres, etc.
Ça va aller dans le sang.
On s'arrête là, d'accord ? Non, ça, on récupère tout. D'accord ? Quel membre ? Chaque fois, c'est un membre de mon corps qui va participer à l'action de récupération d'énergie de cette pomme de terre pour l'amener vers la Kadosh Baruch Hu, pour donner de l'énergie. Ça veut dire que sans me rendre compte, j'ai mangé une simple chips, et en mangeant une simple chips, je suis en train d'élever toutes les pommes de terre. Ça va devenir fou. J'ai élevé toutes les pommes de terre depuis la création du monde, et avec ça, tous les membres de mon corps ont participé, parce que tous, mes yeux l'ont vu, mes mains l'ont pris, ma bouche l'a croqué, tout le monde a participé. Mes narines l'ont senti, tout le monde a participé pour prendre l'énergie de cette pomme de terre et l'amener vers un cadeau.
Oui, sauf qu'il y a un prérequis. Il faut faire la bracha.
Bien sûr.
Et la bracha, c'est pas l'âme animale.
J'ai compris.
Donc quand même,
ça tient la route, ça rend pas fou.
Non, bien sûr que ça tient la route, ça rend pas fou, mais c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est-à-dire, on se dit, voilà, oui, mais... moi, je me prends pas la tête, j'ai pris un truc, j'ai bu, c'est tout, d'accord ? Tu dis, attends, t'as changé le monde, baba. Tu viens de changer le monde, là. Donc, alors, tu imagines ça ? Celui qui va faire son programme politique, il va dire, changer le monde avec une patate. Il va recevoir 100 patates. Ah oui, ça marche pas comme ça. Eh ben oui, ce qu'il dit ici.
Mais normalement, l'énergie, c'est lui qui me donne l'énergie, c'est pas l'énergie qui va à Dieu.
Oui, mais lui me donne l'énergie, mais pour monsieur Benita, vous connaissez bien le principe que pour générer de l'énergie, il faut de l'énergie.
Oui.
Vous connaissez ce principe en physique, oui. Pour générer de l'énergie, pour avoir une centrale nucléaire qui tourne, il faut forcément de l'énergie. Sauf que quand c'est efficient, c'est que comment ça se passe? Il faut que avec peu d'énergie, on génère beaucoup d'énergie. On est d'accord?
On revient au micro.
Par exemple, le nucléaire. Le nucléaire, avec peu d'énergie, on génère beaucoup d'énergie. Donc c'est la même chose. Là, je vais prendre. Avec peu de matière, on génère beaucoup d'énergie. Là, je vais prendre un chips. Je vais employer de l'énergie, parce que pour prendre ce chips, il faut de l'énergie. Mais avec quand ça marche bien, c'est qu'avec, j'ai déployé peu d'énergie, j'ai juste pris comme ça, ça m'a rien coûté, et j'ai eu plus d'énergie avec ce chips. Donc en vérité, du coup, c'est tout ça qui remonte chaque jour. L'énergie de la chips, c'est même mon énergie.
Mais l'action, c'était plus pour la chips. Par rapport à l'énergie ?
Les deux.
Ou c'est plus pour moi pour,
Les deux.
Par rapport à la...
C'est un tout. Serge. C'est un tout. C'est un mariage. Lorsque je prends la chips... C'est un mariage. C'est un mariage. Lorsque je prends la chips, c'est un mariage entre la chips et moi.
Divorce interdit. Terminé. La vie.
Le mariage.
Cas de lien. C'est pour la vie, alors.
C'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire quand on voit ça. On se dit que quand on réfléchit à tout ça, c'est extraordinaire.
Ah oui,
c'est
réfléchi à plein de choses.
Pardon. Ah ben, j'ai laissé monsieur le rabbin parler. Hein.
Voilà. Très bien. Merci, monsieur Benitez. Monsieur Benitez, il faut laisser le temps de digérer. Voilà. Oui, monsieur Benita, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Il travaille. Il est en train de classer ce à quoi il adhère et ce à quoi il adhère.
Ça change pas, il travaille pour la Torah quand même. Ouais, donc il est en train de se lever pour la Torah.
Il fait un classement.
Hein?
Il fait un classement.
Pour le moment. Pour le moment.
Je sélectionne.
Tu fais des catégories. Tu es dans les tiroirs, attends. Tu mets dans les tiroirs.
On continue.
Michel, t'as pris un peu de bénédiction,
c'est joli. Vechen, pareil.
Tu veux?
Bemitzvat, Talmud Torah. Vous êtes avec moi? Je suis dans le donc je suis à la oui dernière ligne. Vechen pareil. Bemitzvat Talmud Torah. Autre exemple. Alors là c'est intéressant parce qu'il veut nous expliquer que à Kadosh Baruch Hu,
c'est quelle page?
Je suis à la page 140.
140.
Ah, Vegan.
Vegan.
Ah d'accord.
Il veut nous expliquer que pour faire une demeure pour un Kadosh Baruch Hu, il faut forcément que tout passe par de l'action. Il faut une action. Là, par exemple, la chips, le fait de prendre, voilà, on a ramené des chips, le fait de prendre la chips dans ma main, voilà, c'est inspiré. Le fait de prendre la chips, il nous a ramené de l'énergie en boîte, là, c'est, voilà, c'est
en paquet.
Là, tu as.
T'as amené le champ.
T'as amené le champ complet.
Flot d'or, c'est un flot d'or. Donc. Eh ben peut-être, ouais. En plus, c'est doré.
Non, mais c'est ça.
Doré, pourquoi c'est doré? Hein? Elles sont belles, ouais.
Grandes, belles, aérées.
Continuons. Alors, il faut toujours que ça passe par une action.
On voit pas, c'est un rire de joie.
Donc, continuons. En bas de la page 140. Je disais qu'il faut toujours une action. L'action dans la chiffre, c'était le fait de la prendre, de la manger. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous retrouver, il va nous trouver des actions, une action, je précise bien, même dans des choses qui sont plutôt inattendues. Écoutez cet exemple. Vechen, par exemple, ben mitzvah, Talmud Torah ou Kriyat Shema ou Tfila. Prenons l'exemple d'une personne qui va étudier la Torah. Ou bien, qui va lire le Shema ou qui va faire sa Amida. Est-ce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah? Oui. Est-ce que c'est une mitzvah de lire le Shema?
Oui.
Est-ce que c'est une mitzvah de faire cette Tfila?
Oui.
Alors, écoutez bien ma question. Les trois mitzvot que je viens de citer, d'après vous, est-ce qu'elles sont des mitzvot liées à l'action, à la parole ou à la pensée?
Les trois.
Réfléchissez bien. Je vais commencer par la première, je vais vous simplifier. Étudier la Torah, c'est lié à la parole, à la pensée ou à l'action?
Les trois.
La pensée.
La pensée.
Dites-moi ce que vous pensez. Logiquement.
L'étude, c'est la parole et la pensée.
Donc, non, logiquement, l'étude, ça devrait être lié à la parole et à la pensée. Maintenant, lire le schéma, c'est lié à quoi?
La parole.
La parole et aussi la pensée.
Il faut avoir la kavana.
Lire la Amida, c'est en rapport avec quoi?
La parole et la pensée.
Parole et la pensée. Sauf qu'il y a un piège. Comment j'ai fait pour prononcer les mots de l'Amida? Et pour prononcer les mots de la Tfila?
J'ai fait bouger mes lèvres.
Ah,
J'ai fait bouger mes lèvres.
J'ai toujours une action.
Quoi qu'il arrive, il y a toujours une action.
Exactement. Il y a toujours une action. Même sans arriver à ça.
Oui, d'accord.
Le fait chez toi.
Le fait même. Après, je ne rentre pas dans le cerveau, le fait que le cerveau bouge. Je ne rentre pas dans.
Je marche pour aller à la finance.
Oublions ça. Je parle même dans l'action même de lire la Tfila. Dans l'action même. De lire le schéma, de l'étudier la Torah. Alors il dit ici, Vekayutsebaen, Av Shenam Basi Agashmit Mamash, bien que ce n'est pas un acte concret, c'est pas un acte physique, parce que c'est une pensée, quand même, Mikol Makom, quand même, Shetachat Mushal Klipat Noga, Mikol Makom, quand même, Kaimalan, on tient, des Hirur, Lav Kedibur Dami, que la pensée n'est pas considérée comme une parole, et qu'on n'est pas qui tant qu'on n'a pas prononcé avec ses lèvres, et on tient d'akimat satav avemase, on tient que bouger les lèvres est appelé un acte. Alors là, attention. Là, l'admorazaké nous fait une acrobatie talmudique. Écoutez bien. Vous me suivez? Rabotai. Faut s'accrocher un petit peu là.
Je sais qu'il est
un peu tard. Alors, là. Vous êtes avec moi? L'admorazaké ici nous fait une acrobatie talmudique. il va nous prendre deux halakhot distincts qui n'ont rien à voir. Et avec ces deux halakhot ensemble, il va nous amener où il veut nous amener. Je vais vous poser deux questions. On va répondre à ces deux questions. Et avec ces deux questions talmudiques, on va essayer de comprendre ce que le Morazaka veut nous dire. Première question. Grande question talmudique. Est-ce que la pensée est considérée comme la parole? Ou est-ce que la pensée n'est pas considérée comme la parole? J'explique ma question. Imaginez, par exemple, que je dois lire le schéma.
Oui.
Et qu'au lieu de prononcer le schéma avec mes lèvres, je vais penser au mot du schéma dans ma tête. Merci. Ça veut dire, au lieu de dire schéma Israël, je vais penser dans ma tête au mot schéma Israël.
Pas quitte.
Attendez. C'est un grand débat dans le Talmud.
C'est un débat.
Hein. Est-ce que la pensée est considérée comme la parole ou pas? Je vous donne un exemple, pour aller un peu plus loin, pour vous titiller un petit peu plus. Imaginez qu'une personne a fait un néder. Il a dit, je jure de ne plus parler de ça. Est-ce qu'il a le droit d'y penser? Avec des mots. Parce que le problème, c'est que la pensée, c'est avec des mots.
Non, mais il ne peut pas s'empêcher de penser.
J'ai compris. Mais est-ce qu'il a le droit d'y penser, activement?
C'est pas une action.
Alors, c'est un grand débat dans le Talmud. C'est un grand débat dans le Talmud. Et la conclusion du Talmud, c'est quoi? C'est que la pensée n'est pas considérée comme la parole.
Elle est
bonne.
Dans tous les cas de figure.
Ça marche pas.
Dans tous les cas de figure. Non. La pensée n'est pas considérée comme la parole. Ah. Après, il y a autre chose. Tu peux faire un néder en pensée. Mais la pensée, c'est pas le même point que la parole.
Un politicien qui fait un discours et qui parle pas.
Ça veut dire que. Non, mais je parle pas de politicien. Non, mais attendez. Non, mais monsieur Akos, réfléchissez par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça change si je dis schéma Israël ou si je pense schéma Israël? Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui disent schéma Israël et qui pensent même pas à ce qu'ils disent. D'un autre côté, un autre, il va penser à ce qu'il dit à fond, mais il n'a pas prononcé avec ses lèvres. Qu'est-ce que ça change?
Il a dit je pense schéma, il a dit c'est ça.
Non.
Même pas.
C'est que dans sa tête, imaginez, fermez les yeux avec moi là. Fermez les yeux. Pensez très fort schéma Israël. C'est bon? Schéma Israël. Vous avez pensé schéma Israël? Très bien. Qu'est-ce que ça change si vous avez pensé schéma Israël ou si vous avez dit, vous avez bougé les lèvres en disant schéma Israël? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui a changé?
Que pour
moi. Ben, l'engagement.
Pour vous, ça change rien. Au contraire.
La pensée est la même.
De toute façon, la pensée est la même. Vous avez pensé les mêmes mots. Vous comprenez ma question?
Oui, j'ai compris. Maintenant, après.
Alors, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un débat dans la Guémara. C'est un débat dans la Guémara. Est-ce que la pensée est considérée comme la parole ou pas? Et c'est un grand débat.
C'est-à-dire que ça ne change que quelque chose que pour les autres. Parce que nous, finalement,
oui.
Si on intériorisait, c'est ça, nous, voilà. Ça peut avoir la même valeur.
Donc la question va se poser, par rapport aux mitzvot personnels, comme lire le schéma, qui me concerne qu'à moi, comme faire la Amida, comme étudier la Torah, pour moi.
C'est pas toujours à haute voix.
Alors, voilà, exactement. Donc dans une mitzvah comme ça, qu'est-ce que ça te change si je fais la Amida, si je fais la Amida dans ma tête, mentalement?
On n'est pas loin.
C'est la même chose. Eh bien, qu'est-ce que tranche le Shulchan Aruch? C'est la halakha. La halakha est que la pensée n'est pas considérée comme la parole. Maintenant, j'ai pas fini. Maintenant, il y a un deuxième débat talmudique. Parce qu'après, encore une fois, on va prendre les deux débats talmudiques, la synthèse des deux. Et avec ça, le Dvar HaZaken va nous amener où vous nous amenez. Deuxième débat talmudique. Est-ce que bouger les lèvres est considéré un acte? J'explique. Attendez. Laissez-moi expliquer la question. C'est quoi la question? La question est comme ça. La question est, imaginez une personne qui a fait un éder. Et il a dit à quelqu'un, il a dit, je ferai plus rien pour toi. Il a juré. Par exemple, son fils, sa femme, ou je sais pas qui, voilà, il a énervé. Il a fait le néder, il a dit, je jure de ne plus jamais rien faire pour toi. Il a prononcé le verbe faire. Et après, il veut se poser la question, est-ce qu'il a le droit de parler pour son fils? Ou de parler pour, ça veut dire de parler à quelqu'un, par exemple, pour le bien-être. Ah. Parler. Pas faire. Parler. Ça veut dire il bouge pas sa main, il bouge pas ses pieds, il parle. Attends. Non. Mais non. Il fait pas, c'est pas lui qui fait. Quand on parle, on fait faire. En français, on n'aime pas le verbe faire, encore moins à l'écrit. Mais bon, voilà. Donc c'est un grand débat dans le Talmud. Est-ce que bouger les lèvres est considéré un acte? Donc voilà, comme j'ai dit, par exemple, celui qui a fait le néder de ne pas faire quelque chose pour quelqu'un, est-ce qu'il peut le dire quelque chose pour quelqu'un, pour cette même personne? Réponse de la Gemara. Ça, c'est un grand débat dans le Talmud. Réponse du Talmud. Le Talmud dit, en vérité, parler pour quelqu'un, c'est aussi un acte. Sauf qu'il y a un acte prononcé, il y a un acte qui est moins prononcé. Quand je vais prendre, par exemple, cette bouteille dans la main, c'est un acte prononcé. C'est un geste. Même lorsque je vais parler, au final, qu'est-ce qui parle que je vais parler? mes lèvres ont bougé. Est-ce qu'il est possible de parler sans qu'il y ait un membre qui bouge? Il y a obligatoirement un membre qui doit bouger. Même si je vous parlais comme ça. Allez, essayez. Essayez de me parler en fermant les lèvres. C'est impossible. D'accord? Vous allez pas, je vais pas vous rappeler les films d'horreur. Essayez de parler, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que même si vous bougez la langue, même si vous bougez la gorge, même si vous bougez toutes les dents, si vous bougez tout ce que vous voulez, tant que vous ne bougez pas les lèvres, vous ne pouvez pas parler. Vous avez essayé? Vas-y, essaye, Serge. Essayez de me dire bonjour en fermant les lèvres. Hein? Non, ferme les lèvres.
C'est un ventriloque.
Impossible. Donc. De là, attendez, j'ai pas fini. Fermez le raisonnement. Donc de là, le Talmud conclut que le Talmud dit, étant donné que quand on bouge les lèvres, c'est un acte, l'Admor Ramtzé, il explique comme ça. Il dit que la langue commence, enfin, ça commence, ça vient de la gorge, après la langue va couper les mots, mais il faut que ça se passe par les lèvres. On l'a essayé, vous l'avez essayé. David l'a essayé, là. D'accord? Tant que tu ne bouges pas les lèvres, tu peux pas prononcer. On est d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la parole, elle doit obligatoirement passer par un acte.
Oui, mais...
Et donc, c'est pour ça que le Talmud a tranché. Je termine le raisonnement après les questions avec plaisir. Donc, c'est pour ça que le Talmud a tranché. C'est une marloquette, mais le Talmud, la conclusion du débat talmudique, c'est que bouger les lèvres est considéré un acte. Donc, dans le cas que je vous disais tout à l'heure, si une personne, par exemple, il a dit à quelqu'un, je ferai plus rien pour toi, eh ben, il a pas le droit de parler pour lui. Parce que parler pour quelqu'un, ça s'appelle faire. C'est une action.
Tu prends la parole.
Donc, si maintenant je fais la synthèse de ces deux choses qu'on vient de dire, on a eu deux conclusions. Première conclusion qu'on a eue, c'est quoi? C'est que la pensée n'est pas comme la parole. Deuxième synthèse qu'on a dit, c'est que la parole est considérée un acte. Revenons maintenant au schéma. Est-ce que je peux faire le schéma en pensée? Non, puisqu'on vient de dire que la pensée n'est pas comme la parole. Donc du coup, je dois le faire en parole. Mais tu viens de me dire aussi que la parole est considérée comme un acte. Ça veut dire que je le veuille ou que je le veuille pas, en faisant le schéma, je suis en train de faire un acte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit faire le schéma. Je dis même pas dire le schéma, je dis faire le schéma. C'est une action, ce qui n'est pas logique. Normalement, on devrait dire le schéma. Pourquoi je dis faire le schéma? Je dis à mon fils, fais ton schéma. Fais ta Amida. Pourquoi fait? Il fait pas. Il dit.
Il y a peut-être un geste au départ.
Non, pas forcément. Même s'il n'y a pas de geste. Fais ton schéma. Fais ta prière.
Ah oui, d'accord.
Pourquoi fait? Parce que pour faire sa prière, il va devoir prononcer. Et pour prononcer, il va bouger ses lèvres. Donc de là, ça c'est une conclusion pour nous montrer que quoi? Que étant donné que par la pensée, c'était pas cachère, donc il fallait la parole est considérée comme une action. Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est obligatoirement en train de faire l'action.
Et bouger les lèvres dans tout, ça marche dans tout.
Bien sûr.
Finalement, c'est valable dans tout ce qu'on. Bon, ça s'arrête rarement à la. Si on peut arrêter à la pensée, ça fait une chose. Mais par exemple, qu'on doit faire des actions.
Même la pensée, ça bouge. Quand tu penses, qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est les neurones qui bougent.
Oui, mais on peut faire sans la pensée, parce que si t'as pas la chavana,
oui.
C'est toujours un acte.
Mais tout est lié au corps, forcément.
On va dire le Chaim ce soir. Hein. Ce soir, aujourd'hui, c'était l'anniversaire du Rabbi Rachab.
La naissance.
Ah. L'anniversaire du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est lui qui a fondé la yeshiva Tomchet Mimim.
La yeshiva quoi?
Tomchet Mimim. Toutes les yeshivas Rabad. À la yeshiva, c'était une grande date hassidique chaque fois que c'était le jour du 20 Maheshvan. C'était aujourd'hui. Le Chaim.
On a vu d'ailleurs la vidéo avec les 60 personnes qu'il avait missionné pour le. Il n'est pas 60 sages qu'il avait missionné d'aller diffuser. Mm-hmm. C'est ça la vidéo de Motsé Shabbat. Il n'y avait pas la vidéo?
Dentiste.
Non, mais au début, il parlait de Tomé Temimi, mais avec les. Il parlait des. De,
ah ouais.
Il y avait c'était.
Oui, le 20 Rajvan, exactement.
Le 20 Rajvan, il y avait 60 sages, je crois, que de mémoire,
c'est pas le périste.
Il y a 60 qui diffusaient. Il n'y avait pas ça?
Merci.
1900 ou un truc comme ça, ou 1890, je crois.
Exactement. Azak.
Ah, il y en a qui n'ont pas pendant la séance de cinéma. Mais bon, on peut considérer quand même que l'action, nous, au sens de la Torah, on pense que l'action, c'est la mitzvah.
C'est le chidouche. Il te dit, il y a une action prononcée, et il y a une action qui n'est pas prononcée. Prononcée, ça veut dire appuyer, quoi. Il y a une action appuyée, comme par exemple prendre, c'est un geste, ça c'est un geste. Il y a une action qui est plus raffinée, qui est plus fine, comme bouger les lèvres.
Mais est-ce que le fait de faire une action, est-ce que tu es obligé d'avoir une réaction derrière ?
Non, 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 ça n'a rien à voir.
Parce qu'on attend une réaction.
Là, la Dmorazaken veut prouver.
Action, on attend quelque chose de tout ça.
Non, non, il ne rentre pas dedans. La Dmorazaken veut prouver que dans notre vie, il y a tout le temps une action. Dans toute chose qu'on fait, il y a une action. D'accord. Même ce qu'on dit, il y a une action. Donc, si il explique ça, ça veut dire que quand maintenant je prends.
Sauf la pensée.
Sauf même la pensée. Même la pensée, ça bouge. Mais ça, je ne rentre pas dedans. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de là, on apprend ici la chose suivante. De là, on apprend. De là, on apprend que l'âme divine, pour s'exprimer, elle est obligée de passer par l'action. Et lorsque je vais faire une action, encore une fois, c'est toute la chaîne de production qui va se lever vers Akadosh Baruch Hu. Et en plus, moi aussi, je vais me lever vers Akadosh Baruch Hu. Parce que j'ai fait une action. Et pour faire cette action, j'étais obligé de faire appel à mon âme animale. Donc, on ne peut pas ne pas faire appel à l'âme animale. Je suis obligé de faire appel à l'âme animale. Exactement. Donc on l'élève aussi vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que moi, quand je viens à la synagogue, je dis, bon, l'âme animale, je ne sais pas ce que c'est, moi. Sans te rendre compte, tu élèves ton âme animale, tu élèves ton moi, tu élèves ton âme animale à Akadosh Baruch Hu. Voilà, on a expliqué, on a donné une preuve. Ce qu'il dit ici. On va continuer un peu dans les mots quelques lignes. Donc, qui yefchar, au milieu de la page 141. Qui yefchar la nefesh elokit levate bisfataim. Car l'âme divine ne peut pas s'exprimer avec les lèvres, ou pé, et la bouche, velachon, et la langue, veshinaim, et les dents. Parce que vous savez que, on dit qu'il y a cinq façons de s'exprimer. D'accord? Les lettres aleph, he, chet, aïn viennent de la gorge. Les lettres bet, vav, mem, p proviennent des lèvres. Les lettres gimel, yud, raf, kouf viennent du palais. Et les lettres dalet, lamed, tet, nun, tav viennent de la langue. Vous pouvez essayer, d'accord? Dalet, regardez, faites dalet, dalet, c'est votre langue qui bouge, d'accord? Faites lamed, hop, c'est encore votre langue qui bouge. Maintenant, dernier groupe, c'est quoi? Zain, samer, tzadik, shin. Là, qu'est-ce que vous voyez? Essayez de prononcer Zain. Zain. Qu'est-ce qui a bougé quand vous avez dit Zain? Vos dents. C'est vos dents qui ont finalisé. Zain, c'est vos dents. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vos dents. C'est vos dents qui ont finalisé. Zain, sa mère, Tzadik, Shin. Cependant, bien qu'il y ait cinq groupes, au final, quel est le groupe qui finalise tout ça? Toujours les lèvres. Comme on en montrait tout à l'heure. Serge, il a essayé. Vas-y, Serge, essaye de nous faire un Zain. Le Zain, on l'a dit, vient des dents. Essaye de nous faire un Zain, lèvres fermées. Impossible. Donc ça veut dire quoi? Bien faire nous un lamed. C'est pas si lamed. Impossible. Pourtant le lamed. Mais le lamed vient de la langue, là, on le sent. Le lamed, 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 lamed. Faites lamed, 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 lamed. C'est votre langue qui bouge là. Alors pourquoi j'arrive pas à le faire avec les fermés? J'y arrive pas. Pourquoi? C'est impossible. Parce que, dans tous les cas, on doit s'exprimer par les lèvres. Même si ça passe par d'autres membres, ça passe par les lèvres. C'est ce que appelle la Gemara Akimat Sfatav. Bouger les lèvres. Voilà. Bouger
pourtant, les animaux, ils ont les lèvres aussi, ils parlent pas.
Non, mais les lèvres, c'est pour finaliser, monsieur Benidan.
Mais ils ont pas les lèvres.
Et les morts aussi, ils ont des lèvres, ils parlent pas. Excusez-moi.
Ils sont morts.
Voilà.
Ils sont morts.
Bah, c'est la même chose.
Les animaux, c'est des êtres vivants.
Ils ont des sons.
Ils parlent à leur façon. Ils ont des sons.
Il y a un langage. Il y a des sons.
Oui.
L'abeille, elle ne fait pas bzzz ou la mouche. Elle vient à côté de vous.
Ok. Tu comprends pas son son. Elle te cause à côté de bien.
Ils ont un langage. Les animaux ont un langage. Tous les animaux ont un poisson. Qui im seulement, aliédé nefesh achiyunit amelou beshet bevari agouf. L'âme divine, si elle veut s'exprimer, avec les lèvres, avec la bouche, avec la langue, avec les dents, comment elle le fait? Elle peut le faire seulement en passant par l'âme animale. Amelou beshet bevari agouf. Donc là, la Dmora Zaken prouve clairement qu'une fois que la Neshama est habillée dans le corps, le passage obligatoire pour accomplir une mitzvah, c'est de passer par le corps. On ne peut pas accomplir une mitzvah sans le corps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que on aurait pu penser qu'il y a, il y a une âme, il y a un corps. Dès que je vais faire une mitzvah, je laisse tomber le corps et mon âme fait la mitzvah. C'est impossible. Une fois que l'âme est habillée dans le corps, la seule façon pour elle de faire la mitzvah, donc d'exprimer la mitzvah, verbalement, etc., ou dans tout ce qu'on a dit, c'est obligatoirement de passer par le corps. Voilà. Et c'est volontaire de la part de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire que l'âme divine, elle parle directement à Dieu. Pourquoi elle a besoin de passer par l'intermédiaire du corps? C'est horrible, ça. Imagine l'âme divine, elle veut parler à Dieu. L'âme divine, elle était tranquille en haut. On l'a fait descendre en bas. On lui dit, maintenant, si tu parles, ça passe par l'intermédiaire du corps. Il dit, mais attends, moi j'étais en haut, j'étais bien en haut. Tu me laisses parler, laisse-moi parler direct. Qu'est-ce que tu me prends la tête de passer par un corps? C'est volontaire, la part de quel jour. Parce qu'il te dit, étant donné qu'on t'oblige à passer par le corps, que tu veuilles ou que tu le veuilles pas, en faisant toi ta tefila, tu vas non seulement toi t'élever, mais tu vas aussi élever ton corps vers un kadosh baruch hu. C'est volontaire. Mais ça, bien sûr, on s'en rend pas compte. Voilà. Alors c'est pas seulement ça. Je vais rendre Monsieur Benita encore plus un peu fou, d'accord? Parce que Monsieur Benita, d'accord? Vous savez, Monsieur Benita, lorsque je vous parle maintenant, d'accord? Je vous parle avec la ferveur, grâce à Dieu. Je vous parle comme ça en train de vous raconter, etc. Bah, au Hachem, j'ai la pêche. Bon, d'où j'ai cette pêche? Bah, parce que, pour beaucoup de choses. Parce que.
J'ai mangé des chips.
Voilà, j'ai mangé des chips. Parce que cet après-midi, j'étais chez David, et que Joe m'a préparé un plat. D'accord? Voilà.
La pub.
Etc., etc. Voilà. Donc, du coup, tu veux dire, quel rapport entre l'omelette que j'ai mangé, ou le plat, quoi, que j'ai mangé à 14h, ou 13h30, je sais pas quelle heure, et le cours que je fais maintenant à 21h? Quel rapport? Bien sûr qu'il y a un rapport, parce que si j'avais pas mangé tout à l'heure le plat,
j'aurais pas eu la force.
L'énergie. Donc du coup, le plat que j'ai mangé, a collaboré dans le cours que je fais maintenant. Donc lui aussi. Donc du coup, en faisant le cours, j'élève le plat.
Tout ça pour le mérite de ton beau-père, regarde.
Vous voyez, vous me suivez?
C'est logique, quoi. Bon, bah, y a rien.
Ce matin, Monsieur Benita, j'ai pris un café. Ouais. Sans le café de ce matin, j'aurais pas été le même aujourd'hui. Cette nuit, j'ai dormi. Sans le sommeil de cette nuit, j'aurais pas pu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans me rendre compte, en faisant une mitzvah, je prends toute la chaîne avec moi. Je prends le sommeil de cette nuit, le café de ce matin,
la pizza de midi,
je prends tout.
Oui, mais tout ce qu'on fait en vérité.
Enfin, tout.
Dans tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire.
Ça veut dire qu'en vérité, c'est une idée.
On prend des forces pour étudier.
On trouve beaucoup en psychologie.
C'est normal.
Ça, monsieur Benita, c'est une idée qu'on trouve beaucoup en psychologie. La force d'un psychologue.
C'est pas ordinaire.
C'est pas banal. Mais c'est quoi? Mais c'est normal. Ce qu'on mange, ça donne de l'énergie. C'est grâce à cette énergie qu'on peut faire les actions qu'on fait tous les jours.
J'ai compris, monsieur Benita.
Qu'on peut bouger.
Le problème que nous, on a en général, c'est que nous, on a l'habitude de dissocier, de scinder les choses, de dire, cet après-midi, j'ai mangé, après, je suis rentré chez moi, après, je suis allé au cours. Et on parle de... C'est une bonne question, monsieur Benita. On a l'habitude de scinder les choses, de dire, ce matin, j'ai pris un café, cette nuit, j'ai dormi, ce matin, j'ai pris un café, après, je suis parti au boulot, après, j'ai fait ma tefila. On a l'habitude de scinder chaque chose et de séparer chaque chose. Alors qu'en vérité, quand on lit ce chapitre de Tania, on t'apprend que tu ne peux pas scinder les choses. Et ça, on le voit beaucoup en psychologie. On te dit que tu es obligé de prendre une vue d'ensemble. Et lorsque tu prends une vue d'ensemble, tu comprends qu'il n'y a pas d'éléments indépendants. Tout est dépendant. Tout est interdépendant.
Les uns aux autres.
Bien sûr. Ben voilà. Voilà.
Mais d'accord. C'est ça qui me donne la force pour faire ceci. Et ceci, ça me rapproche de...
Tout est lié. Vous avez cette bouteille. Cette bouteille, il y a des éléments qui viennent de partout. Il y a de l'eau. Il y a une bouteille en plastique. Il y a une étiquette. Il y a une couleur verte. Il y a un bouchon vert. D'accord? C'est des éléments, tout ça. Il y a une encre. D'accord?
Il y a des bulles.
Etc. Il y a des bulles. Il y a chaque chose. Il y a un code barre. Il y a une personne qui l'a fabriqué. Il y a une usine qui l'a faite. Il y a une personne qui a fait cette usine. Il y a une personne qui a fabriqué les composants de l'usine. Il n'y a jamais rien qui vient tout seul. Il y a toujours une chaîne de production. Seulement, nous, les hommes, on a l'habitude de voir le produit fini. Je dis, écoute, moi, je m'en fiche de ta chaîne, de ton usine. Moi, je veux ma bouteille et c'est tout. Ne prends pas la tête maintenant avec ton usine, etc. Mais c'est faux.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la lumière qui est
la différence, c'est que nous,
c'est ça qu'on voit. Un animal n'a pas cette pensée-là.
Ah oui, bien sûr.
Lui, il va prendre quelque chose, il va la manger.
Il prend direct. Nous aussi, les hommes. Mais nous les hommes, tu nous donnes la capacité de nous propulser. Et là, c'est extraordinaire.
Non, mais je vais être provocateur. Ça c'est vrai pour tout homme.
Oui.
Qu'il fasse Torah mitzvot ou pas.
Qu'il soit juif ou pas.
Non, mais parlons d'un juif.
Non, mais.
Celui qui ne fait pas Torah mitzvot du tout.
Ça ne change pas, oui.
Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il va se lever le matin, il prendra son café, il va prendre son petit déjeuner, il va aller à
son. Oui, mais dans ce cas-là, la question est la suivante. Il va prendre son énergie pour faire quoi? À quel moment l'énergie s'élève vers un Kadosh Baruch Hu?
Pour pouvoir mourir.
L'énergie s'élève vers un Kadosh Baruch Hu au moment où je suis venu au cours de Torah.
Voilà.
Oui, et là, comme je suis venu au cours de Torah, comme il y a le sommeil, le café, le repas, le repos qui ont collaboré au repos que j'ai maintenant et à la tranquillité des trucs que j'ai maintenant pour donner le cours, c'est pour ça qu'il s'élève.
Ah oui.
Mais s'il n'y a pas ça, ça ne monte pas.
Voilà. Alors attends.
Ça va dans la kippa de Noga.
Et s'il y a un type qui était en retard ici?
il a vu une mobilette, il était en retard, il a volé la mobilette pour venir au cours de toi.
Ah, ça marche pas, ça. La mobilette, elle peut pas se lever. Parce que la mobilette est interdite. Ce qui est interdit, il peut pas se lever avec quatre jambes. C'est comme si la mange, excuse-moi, je vais prendre un exemple un peu plus lointain. Si quelqu'un, il a mangé un morceau de cochon. Un morceau de cochon succulent. Mais vraiment, magnifique. Donnez-moi un nom de plat.
Jambon, hein. de Parme.
Jambon de Parme. D'accord. Mais vraiment, un plat. Il a fait un grand kiff. Il a tellement kiffé qu'il est parti étudier la Torah après. Il était en plein dedans. À fond dedans. Vas-y, regarde Dieu. La vérité, l'étude, elle aurait pas été la même avec le cochon sans cochon.
Il a pas élevé.
On te dit, le cochon, il n'est pas élevé parce qu'il est bloqué. Il est assourd. Assourd, ça veut dire enchaîné. Il est bloqué. Donc il monte pas. C'est comme ça.
Et pourtant, il a donné de l'énergie à celui qui l'a mangé.
Oui, mais l'énergie est bloquée en bas.
Pour pouvoir se mouvoir dans la journée, faire ce qu'il a à faire.
Il lui a donné une énergie, mais c'est une énergie qui est bloquée. C'est une énergie qui a une apaisanteur qui peut pas monter. Alors que quand c'est un objet qui est permis, c'est une énergie qui a une apaisanteur qui peut monter.
Mais est-ce que les deux ressentent la différence, celui qui a une énergie qui monte?
Non, on ne ressent rien du tout.
On ne ressent rien du tout, évidemment. C'est ça notre problème, c'est qu'on ne ressent rien. Ça.
Vous ressentez comment le repas de cet après-midi est en train de vous aider au cours de Tania? On ne ressent pas. Mais c'est important de le savoir. Parce que lorsqu'on va rentrer en coulisses avec Machiar, là on aura le « aha ».
Voilà.
Ah oui, tu diras, c'est ce que vous voulez nous dire.
Aujourd'hui, ça reste très, très théorique et conceptuel. C'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui a mangé cachère, qui est venu faire un cours et qui l'élève,
oui,
il perçoit pas plus que celui qui a pas mangé cachère et qui a pas
été cours. Non, pas du tout.
Exactement pareil.
Même chose.
Il a rien élevé. Il y en a un qui a élevé l'autre, mais il y en a un qui...
Enfin. On ne perçoit aucune différence, qu'on soit clair. On ne perçoit aucune différence.
Élevé, c'est virtuel, hein.
Non, c'est pas virtuel.
Ah, c'est pas virtuel.
C'est invisible.
C'est invisible.
Bah, pareil. Hein.
Ah non, c'est pas pareil.
Imperceptible.
C'est pas pareil, M. Benita.
Mais c'est imperceptible.
C'est pareil.
On peut pas le percevoir.
Vous avez un cœur, M. Benita?
C'est ça, le problème.
Est-ce que vous avez un cœur dans votre corps?
Oui.
D'où vous savez?
Ben, parce que je le sens battre.
Mais peut-être c'est pas un cœur.
Quand je fais trop de...
Peut-être c'est pas un cœur.
Trop de d'efforts.
D'où vous savez?
Peut-être
c'est pas un cœur.
Peut-être un truc avec une pile.
Peut-être c'est une pile.
Pas,
peut-être c'est un truc qui bouge. Peut-être c'est une autre chose.
Ouais, mais dans ce cas-là, je l'aurais su. Hein,
peut-être c'est un pied qui bouge dans votre corps.
Je l'aurais su.
D'où, comment vous l'aurez su?
Ben, mon cardiologue
ouvert.
On l'aurait dit.
Hein?
Mais comment il a su?
D'où c'est lui?
Il a été ouvert. Il a été ouvert, figurez-vous.
Prouve-le que lui le sait.
J'ai eu 5 pontages. Il a été ouvert.
Bon, vous voulez comprendre du cerveau?
C'est le problème, c'est ça.
C'est tout, c'est imperceptible.
Monsieur Benita, 5 Charles, 5
montages. 5 montages et 2 stands en plus.
C'est 4 montages.
C'est un miracle, grâce à Dieu. En bonne santé jusqu'à 120 ans.
Moi, 5, on m'en fait 5 montages et 3 ans plus tard, j'ai eu 2 stands.
Eh ben, dis.
Au Hachem. Oh, ouais. Oh, jusqu'à 120 ans. Donc amen. Jusqu'à 120 ans. Amen.
Allez.
Bon, alors.
Il permet le cardiologue qu'on prenne les chaim ou pas?
Il est pas là, tu dis rien.
On continue. Maintenant, je vais aller plus loin. Quand je parle, je peux vous dire, Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qui a changé entre les deux?
Le son.
Donc.
La tonalité.
Donc, en ce qui concerne mon énergie.
Le son,
dans les deux cas, j'ai dit Baruch Ata Hashem.
Il n'y a pas de ton.
Vous avez mis plus d'énergie.
Ah, ça commence à venir. Donc, qu'est-ce qui a changé?
C'est café du matin.
Voilà. Ce qui a changé, c'est que là, on va aller encore plus fort. C'est-à-dire, déjà, on a dit, quand je parle, c'est une action. Et cette action fait en sorte que l'âme divine élève l'âme animale. L'action de l'âme animale fait en sorte que... Mais je vais aller plus loin que ça. Dans cette action, il y a des variantes. Il y a une action forte, une action faible. Je peux parler fort, je peux parler faiblement. Et pas seulement ça, je vais aller même plus loin que ça. Quand je parle, je peux vous parler comme ça, Baruch Ata Hashem, vous pouvez parler Baruch Ata Hashem. Pourquoi j'ai bougé mes mains là? Qu'est-ce qu'il y a? Baruch Ata Hashem. Là, vous savez, j'ai bougé mes pieds, mon corps, mes mains, mes yeux, j'ai tout bougé, ma tête. Donc ça veut dire que tous mes membres ont participé au mouvement de mon cours. Donc ils ont participé, donc c'est une action ça aussi. Donc ça veut dire qu'en bougeant mes mains maintenant pour vous parler, je suis en train d'élever aussi l'énergie de mes mains vers un Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Juifs, ils parlent beaucoup avec les mains. C'est extraordinaire. Alors je vais aller plus loin. V'chol ma shemedaber bekoar gadol yoter. Plus on parle avec de l'énergie, avec plus d'énergie, ou machnis ou malbish yoter. Vous avez dans les mots? Oui. Je suis en bas de la page 141. Umachnis umalbish yoter kochot minefesh riunit plus je parle de façon énergique et plus j'utilise de l'énergie de l'âme animale et donc plus j'élève de l'énergie de l'âme animale. Mais dis Bourimilou dans mes paroles. Mais Zéou, Shamar, Akatou, avec ça on va comprendre un psaume, le psaume 35 que dit le roi David. Psaume extraordinaire, on le dit d'ailleurs dans le Nishmat, le Shabbat matin. On dit Kal Atzmotai Tomarna. Tous mes membres disent. Tous mes membres disent Dieu qui est comme toi. Psaume 35. Là-bas, le commentaire pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi tous mes membres disent? C'est la bouche qui parle, c'est pas les membres.
Ah oui, à partir du moment où
il participe. De là, il dit, en vérité, quand il dit tous mes membres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on voit clairement que les juifs, quand ils étudient la Torah, c'est tous les membres qui participent. Certainement, ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une yeshiva. Et quand vous rentrez dans une yeshiva, qu'est-ce que vous voyez? Ah, ça bouge. Certainement que ça vous est arrivé aussi de rentrer dans une bibliothèque. François Mitterrand, je sais pas où c'est.
Personne ne bouge.
C'est mort. Quelle est la différence? Pourquoi? Pourquoi quand il étudie la Gemara, même si tu vois, il étudie seul, hein, il étudie seul, bonhomme. Hein. Ah, il a dit, nanana. Le tyran a dit, mais qu'est-ce qui bouge là? Qu'est-ce qui me boule, quoi? Moi, je suis né dedans, je vois même pas, mais des fois, les gens, ils regardent, ils te prennent pour un fou. Pourquoi? Ça vient d'ici. C'est écrit en Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, comme c'est écrit, Kol Atzmotai Tomarna, tous mes membres parlent, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est une ségoula quand on étudie la Torah et quand on prie, de bouger pour entrer, pour intégrer à 100%. Vous savez, quand vous avez un orateur qui parle, quand un orateur qui parle, qui est comme ça, bon, il est pas dedans, il vit pas son texte. Quand un orateur qui est là, qui va commencer à bouger, mis à part le fait qu'avec la gestuelle, on peut exprimer beaucoup de choses, mais le fait de bouger, ça exprime le fait qu'on vit la chose. Pareil pour la tefila. Quand je fais une tefila et que je reste comme ça, bon, ma parole, j'ai parlé, mais est-ce que j'ai vécu la chose? Non. Plus je bouge,
et pourtant, dans la tefila, on est pratiquement...
Plus je bouge, et plus ça montre que je vis la chose. On avait donné une autre raison aussi. On avait donné une fois une autre raison, on a expliqué que la neshama est comparée à une flamme. Vous vous rappelez, c'est un chapitre 19, ça. La neshama est comparée à une flamme. Et pourquoi la flamme d'une bougie bouge tout le temps? Parce qu'elle veut rejoindre sa source. Donc, de la même façon, la Neshama, quand elle commence à étudier, elle veut rejoindre sa source, ce qui est à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle bouge.
Je suis sûr que c'est le texte qui fait bouger, mais pas l'inverse.
On voit clairement que ça nous donne envie de bouger. Ça bouge.
En général, quand on chivote, est-ce que c'est l'action qui y fait? Non, je crois que le texte...
Tu le vois clairement. Tu vois ces mêmes personnes-là. Ils sont en train de te parler de Torah, tu le vois, ils bougent. Après, ils sont à la récréation. Où ils sont là même au réfectoire, en train de parler de je ne sais quoi, de foot ou de politique. Ils sont pas en train de dire à la Bible, Netanyahu, il a dit, il n'y a pas, ça c'est fini. Pourquoi pas? Pourquoi il arrête de faire son cirque? Mais c'est sérieux.
Mais c'est pas ça.
Tu le vois clairement, hein. Tu vois clairement. Il est dans on appelle le ZAL. Le ZAL, c'est la salle d'études. Il est dans la salle d'études en train d'étudier, tac, comme ça. Des fois, même dans sa propre chaise, il arrête d'étudier pour discuter. Des fois, ça peut arriver. Bon, d'accord? Là, c'est fini, il arrête de parler. Après, il reprend, il dit, bon, allez, Amarava. Pourquoi tout à l'heure, quand tu parlais politique, t'as arrêté de bouger? On s'en rend même pas compte. Ouais. Parce qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu étudies la Torah, il faut essayer de faire participer un maximum de tes membres. Et d'ailleurs, je vais aller même plus loin que ça. Ouais. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, Aruch Abakol Mishtameret. Aruch Abakol Mishtameret. Lorsque tous tes membres ont participé pour étudier, automatiquement, tu vas retenir. Vous savez, quand on était à l'école, lorsqu'on faisait une bêtise, d'accord? Lorsqu'on faisait une bêtise, par exemple, quelqu'un, il a manqué de respect au professeur, on lui disait, tu vas écrire 100 fois, je manquerai, enfin 100 fois ou 50 fois, je manquerai plus de respect au professeur. Et des fois même, on va dire, tu vas changer les couleurs, en bleu, en rouge, en vert, en noir, etc. Bon. À quoi ça sert? Pourquoi on lui demande de prendre la main? Pourquoi on demande de prendre la main d'écrire quelque chose? Alors c'est écrit ça. C'est écrit que quand tu écris quelque chose, tu te rappelles plus que si tu l'as dit verbalement. Parce que quand tu l'as écrit, ton corps a participé. C'est pas que ta bouche qui a participé, c'est pas que ta tête qui a participé, c'est pas que tes yeux qui ont participé. C'est ton corps qui a participé. Et en fait, ce que dit la Gemara, quelque chose d'extraordinaire, elle te dit, le plus de membres participent à un acte, et le plus tu t'en rappelleras. Le plus tu l'intégreras, et donc le plus tu t'en rappelleras. Donc c'est exactement ce que dit ici le Morazaken. Morazaken te dit, quand tu étudies la Torah, quand tu étudies la Torah, l'Admor HaZaken, non, il vient parce que c'est ma Raf Rejman. L'Admor HaZaken te dit, Rabotai, lorsque tu étudies la Torah, il faut essayer de vibrer, d'étudier la Torah avec tous tes membres. Ça veut dire que, en d'autres termes, pour être plus clair, vous allez des fois chez vous à la maison. Bon, vous voulez voir un petit cours de Torah comme ça, tranquille. Dis, bon, on va aller sur YouTube, Dorabox, vous voulez. On va regarder un cours. T'es là comme ça, tu vois. Il est là en train de siroter son thé. siroter, regarde le cours. On dit, c'est bien de regarder un cours, mais lorsque tu regardes un cours comme ça, devant ton écran, quel membre de ton corps a participé?
Les yeux, c'est tout.
Les yeux et la pensée. C'est tout. Le reste...
C'est quand
même mieux que regarder un film. C'est mieux. Mais on te dit, après, il faut passer à l'étape B. C'est quoi l'étape B? Prendre le livre, l'ouvrir et lire. Et après encore plus. Bon, ben là, tu risques de te faire jeter de la maison. C'est commencer à bouger devant le livre. Là, tu bouges. Tu étudies. Avec ferveur. Et il faut pas avoir peur. C'est comme ça. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit, si la Torah est, si la Torah s'exprime dans tous tes membres, c'est comme ça que tu t'en rappelleras. Donc là, vous voyez, pour reprendre ce que fait Zehu Shamu Razal, pour reprendre ce que dit l'Admor Hazaken, on voit clairement qu'il y a une volonté très claire de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que tous les membres participent. Il y a une volonté très claire de la part d'Akadosh Baruch Hu que le maximum de membres possibles participent à mon étude, participent à ma tefila et participent à tout ce que je fais. Le maximum de membres possibles, même pour quelque chose qui est comme l'étude. La vérité, si vous parlez à une personne qui est un scientifique, déjà il va dire, moi d'après moi, c'est une aberration même de parler. L'étudier, moi je prends le livre, je regarde avec ma pensée. S'il faut, éventuellement, je prends des notes. J'ai besoin de parler, pourquoi tu veux que je parle? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez à la bibliothèque, François Mitterrand, vous êtes déjà rentré à la bibliothèque? Vous voyez les gens, ils font quoi? Est-ce qu'ils parlent, les gens? C'est rare qu'ils parlent, ça arrive. Ça, exactement, tu parles, tu les dirais. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient avec la pensée. Et c'est logique, parce que normalement, l'étude, quel membre est le plus actif dans l'étude? C'est la pensée. Pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu veux bouger? Pourquoi tu veux te lever? Pourquoi tu veux faire ça? C'est pas logique. Reste assis, concentre-toi et utilise ta pensée. Ça, c'est un chidouche de la Torah. La Torah te dit non. La Torah te dit, l'étude de la Torah, il faut faire participer tous les membres. Et plus de membres participent, plus tu le retiendras. Plus de membres participent et plus on va élever de l'énergie de mon corps vers un Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement l'énergie de ma pensée qui va monter vers un Kadosh Baruch Hu, c'est l'énergie de ma tête, c'est l'énergie de ma bouche, c'est l'énergie de mes mains, c'est l'énergie de mes bras, de mes avant-bras. Rabotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est l'énergie de mon dos, c'est l'énergie de mon corps, de mes pieds, c'est tout ça qui va monter.
Donc si tu fais de la gymnastique en faisant un cours de Torah, ça peut être...
Gymnastique en chorégraphie avec...
En chorégraphie, pourquoi pas?
Bien sûr, oui.
Non, mais c'est ça.
Bien sûr.
Ça pourrait marcher. Tu viens de dire que finalement, le cerveau, où tu écris, ton cerveau te rappelle comme quoi tu t'es rappelé de la phrase.
Oui.
Quand j'étais plus... Quand on connaissait pas une récitation, on répétait à chaque fois 10 fois la même ligne.
On écrit.
Tu répétais encore 10 fois la deuxième ligne. À la fin d'année, tu connaissais la récitation par cœur. C'est-à-dire que le cerveau, il enregistre bien. Donc la même manière, comme tu dis, le corps, s'il fait les mêmes actions, il participe.
Il intègre. Ah. Plus de membres participent à ce qu'on fait, et plus on intègre. Alors après, bon, d'un autre côté, il y a un problème après de pas être trop ostentatoire.
C'est ça.
Ça veut dire que des fois, c'est bien, c'est louable, hein. Il y a des gens, des fois, vous allez voir, ils font la tefila, ils ont bougé, les
murs. Comme Andy nous donne un cours. Quand tu vois, on peut pas trop bouger finalement. Il y a que la pensée qui...
Toi, tu bouges, toi, tu te balances, toi, je vois, tu es comme ça. Toi, tu tiens pas en place. Toi, je te vois comme ça, etc.
Comme les mots.
Alors voilà, d'un autre côté, il y a aussi, en tout cas, dans la chassidut rabbah, on insiste sur le fait qu'il n'y ait pas, qu'on ne pas être non plus trop ostentatoire. Après, voilà. Faut savoir,
jongler
entre les deux. Mais de la bonne mesure.
Chez eux, c'est un moyen de...
C'est écrit, voilà. Mais Zéou Shamrou, on est dans les mots. Mais Zéou Shamrou, rabotez-le, Zuchonel,
Uvracha. Il y en a qui ont trop dit ou quoi?
Et donc, avec ça, on va comprendre. Je suis à la page 142. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim m'ont dit dans la Gemara. Arour, sur le pasouk, Arour, Rabakol, Shmoura. Im, Arour, Rabakol, Remach, Evarim. Si la Torah est dressée dans tous les 248 membres, ça veut dire, si tous les membres participent à l'étude, dans ce cas-là, alors, mishtameret. Alors, la Torah est gardée. C'est-à-dire, on l'oublie pas. Veimla, mais sinon, si on n'étudie pas comme ça, ena mishtameret, elle ne se retient pas. Et d'ailleurs, l'Admor Hazaken, dans l'Ilchot Talmud Torah, il dit que une segula pour retenir son étude, c'est de bouger, mais bon, sans arriver à bouger, c'est de parler, de prononcer. Prononcer. Les mots de Torah que vous étudiez, c'est une ségoula pour s'en rappeler. Si vous les prononcez pas, très difficile. Vous allez vous en souvenir. Pourquoi? Là maintenant, l'Admor Hazaken va entrer dans un développement extraordinaire et dire comment ça se fait que si je prononce verbalement ma Torah et si plus je bouge, je retiens. Et si je bouge pas, je retiens pas. Pourquoi?
Là pour les sciences profanes aussi ou
pas? Non, pour la Torah. Pourquoi? Alors, écoutez bien ce qu'il va dire ici. Très puissant ce qu'il va dire ici. il va rentrer dans une question très simple. Pourquoi on oublie? Pourquoi j'oublie? Si j'étudie un mot de Torah, pourquoi je l'oublie?
Parce qu'on ne révise pas. Parce qu'on ne connaît pas quand se retrouver.
Toi, tu dis parce qu'on ne révise pas? C'est faux? Je suis désolé, c'est faux. La preuve, c'est que des choses qui sont importantes pour nous, on s'en rappelle. Non, je pose une question très simple. Comment ça se fait que lorsque j'étudie une parole de Torah, je m'en souviens pas? Pourquoi je m'en souviens pas?
Le jour où le rideau il va s'ouvrir, tu vas t'en souvenir.
Réponds pas autour du pot. Réponds à ma question. Non, j'ai compris. Mais comment ça se fait que d'où vient l'oubli? D'où vient l'oubli?
La concentration.
Est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'oubli? Ça veut dire qu'en d'autres termes, il a fait en sorte que l'homme il apprend et il oublie? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a pas fait en sorte, comme beaucoup de gens, ils apprennent et ils retiennent?
Oui.
Comprenez? Dieu il nous a créé la mémoire. Donc il nous a créé la réflexion et la mémoire. Vous savez, d'ailleurs, c'est pas les mêmes cavités. C'est pas les mêmes endroits. C'est pas les mêmes sections du cerveau. Donc, puisque j'ai une mémoire, comment ça se fait que je ne retiens pas les paroles de Torah? Quand on va répondre à cette question, on va comprendre pourquoi, en exprimant avec un maximum de membres, et ben, automatiquement, ça marche. Regardez ce qu'il vient. C'est extraordinaire. C'est pas logique qu'on oublie. C'est pas logique. Pourquoi j'oublie?
Il est à l'intérieur, mais il faut que la séquence.
Pourquoi quand je viens à un cours de Torah, j'ai entendu quelque chose? Je l'ai compris. Donc normalement, il devrait être casé dans ma mémoire. Pourquoi je l'oublie?
Pourquoi?
Tout en vérité. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici. Écoutez bien ce grand chidouche. C'est un chidouche qui vient du Zohar. Il dit, je suis au milieu de la page 142, qui a shirra imiklipataguf. L'origine de l'oubli provient de la klipa du corps. Venefesh achiyunit abemit. Et l'âme vitale animale. Ça veut dire la raison pour laquelle on oublie. S'il n'y avait que le cerveau dans le corps, jamais on aurait oublié. À cause de quoi on oublie? Parce que la majorité du corps, il est animal. Et c'est l'aspect animal qui fait que même s'il y a l'aspect humain en haut qui est là, qui te tire vers le haut, comme la majorité de notre personne est l'aspect animal, donc du coup ça te tire vers le bas et tu oublies. C'est la raison pour laquelle les grands tzadikim n'oublient rien. Parce que chez les grands tzadikim, l'aspect principal de leur corps, c'est quoi?
C'est l'âme.
Donc eux, ils n'oublient rien. C'est même pas un miracle de pas oublier. Parce que Dieu nous a créé la mémoire. À cause de quoi nous on oublie? Parce que j'étudie, j'essaye de me rappeler, mais après hop, je tire vers le bas. Du coup, je mets comme un gros poids qui est dessus qui écrase tout. Tu comprends? C'est pour ça que tu oublies. Donc maintenant qu'on a compris que l'origine de l'oubli, c'est quoi? C'est l'apaisanteur du corps. L'apaisanteur de la clipa du corps qui fait en sorte que la personne oublie tout. D'accord? Alors, maintenant je comprends pourquoi. La technique pour contrer ça, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'un maximum de membres possibles participent à ma mitzvah. Bah oui, parce que étant donné que c'est mon corps, c'est mon matériel, c'est mes mains, mon corps, mes pieds, tout, qui m'apaisante, qui fait en sorte que du coup j'oublie. D'accord? Eh ben, c'est quoi la technique? La technique, c'est de les faire participer. Quand je les fais participer,
on les élève.
Du coup, ils vont plus m'écraser. Au contraire, ils vont s'élever avec moi.
Mais tu peux pas assister à un cours de Torah.
Alors attention. Si comme ça, maintenant, l'oubli peut avoir plusieurs causes. D'accord? Il est clair. Je vais bien expliquer. L'oubli peut avoir plusieurs autres causes. L'oubli, je vais vous dire quelque chose. L'oubli peut être pour plusieurs causes. Une des causes de l'oubli.
Ça fait partie des facteurs.
Alors, non, mais j'aimerais parler de ça. L'oubli peut avoir plusieurs causes. Une des causes de l'oubli, par exemple, peut être le fait de ne pas avoir fait une Netilat Yadayim. C'est écrit que celui qui ne fait pas une Netilat Yadayim
le matin,
et après être allé aux toilettes, oui. D'accord, son étude ne tient pas en lui. Le fait de ne pas avoir fait une Netilat Yadayim, ça fait en sorte que l'étude n'arrive pas à être intégrée. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a certains aliments qu'on ne faut pas manger, et qu'on ne faut pas manger en grande quantité, c'est mauvais pour la mémoire. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, ce qui est écrit en Shulchan Aruch, et c'est bien la Gemara Orayot. Par exemple, si une personne a mangé le cœur d'un animal, c'est pas bon pour la mémoire. Ou bien, manger le cœur, c'est pas bon pour la mémoire. C'est écrit aussi, manger de ce qu'a mangé un rat ou un chat. Mis à part
le rat, il mange tout.
Non. Ça veut dire que le rat il est passé.
Et moi,
Mis à part le problème des microbes.
À partir du moment où il s'est approché, c'est.
À partir du moment où il a mangé ça, mangé de ce plat. Si moi je mange de ce plat, c'est mauvais pour la mémoire. D'accord. Autre exemple aussi. Les olives. Manger les olives à l'excès. D'accord. Sans huile. Prendre le Zohar, il dit prendre plus que 7 olives sans huile.
Qu'est-ce que prendre ça veut dire de l'olive?
Cette olive, prendre plus que cette olive, manger cette olive comme ça, tac, 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 ah, mais sans huile, pas en saumure non plus. Des olives comme ça, une olive crue, sans rien, brûlée. Manger plus que 7, c'est mauvais pour la mémoire. Donc il y a des choses qui sont mauvaises pour la mémoire. C'est pas mal, 7.
Poisson, il parle, hein?
Le poisson, non, il parle pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses.
De vêtements en même temps, c'est pas bon, Mandy.
Aussi, c'est mauvais aussi. Enlever deux vêtements en même temps, ou mettre deux vêtements en même temps. Enfin, les gens, vous savez, ils sont là, ils enlèvent en même temps le tricot et le. Ils enlèvent en même temps le tricot et le t-shirt. C'est mauvais pour la mémoire. C'est écrit. C'est écrit en chronomètre. Donc, ça, c'est des choses qui. Ça, c'est des facteurs qui sont, entre guillemets, c'est des facteurs qui sont plus forts que nous. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de cet oubli que je parle. Là, je parle d'un oubli qui a rien à voir. Je parle d'un oubli d'une personne qui a mangé ce qu'il fallait, qui a fait une et d'aïm, qui a fait tout ce qu'il fallait, il s'est préparé, etc. Il a bien écouté le cours, il a bien compris le cours. Après, tu viens le voir une heure plus tard, tu dis, alors, qu'est-ce qu'il a dit le cours? Il a oublié. Mais pourquoi j'ai oublié? Je sais pas si c'est, moi, des fois, ça m'intéresse, mais pourquoi j'ai oublié? Pourquoi j'ai oublié ce que j'ai appris il y a une heure? Il y a une heure, c'était clair dans ma tête. Pourquoi quand tu me ressors un film que tu as vu, ça fait un an, je suis capable de le ressortir? Mais quand tu veux ressortir un mot de Torah que tu dis, ça fait une heure, j'ai oublié. Comment ça se fait? La réponse est là. La réponse est ici. Parce que lorsque j'ai étudié, j'ai voulu m'élever, mais juste après, j'ai eu mon corps qui m'a écrasé. C'est pour ça, comme on a expliqué, la technique pour ne pas oublier, c'est quoi? La technique pour ne pas oublier, c'est d'essayer de faire participer un maximum de membres quand on étudie. Pourquoi? On va terminer avec ça pour aujourd'hui. Il dit, Vaïnou, ça veut dire que chez Matish Koram, lorsqu'on va affaiblir les membres en bougeant. C'est-à-dire quand je bouge, déjà il y a deux choses. Déjà j'affaiblis les membres, j'affaiblis la matérialité premièrement, mais deuxièmement c'est encore plus fort. Umarnis kol kocham, et toute l'énergie de mes mains qui aurait pu être utilisée pour autre chose, on va l'intégrer big douche à ta Torah, dans la kedusha de la Torah, ou à tefila et la tefila. Et ça c'est l'injonction de la Torah. Vous savez qu'il y a une injonction de la Torah dans la parasha Vayetranan qui nous dit ishamer lecha ushmor nafshecha meot pen tishkach. Il dit, fais très attention à toi, de peur que tu vas oublier. C'est-à-dire, fais tout ce qui est en ton possible pour ne pas oublier. Rien me pose des questions, mais qu'est-ce que je fasse si j'oublie? C'est ça qu'on parle. Ça veut dire, il faut utiliser ces techniques qu'on est en train de dire ici, pour faire en sorte de ne pas oublier. Donc, conclusion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on explique aujourd'hui? Le chidouche du cours d'aujourd'hui, autant dans le cours la semaine dernière, on a parlé de la chaîne de production qui remonte donc jusqu'à l'origine de la pomme de terre. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. On a dit, ça s'arrête pas qu'à la pomme de terre. Ça s'arrête à tout ce qui est autour de la pomme de terre. L'homme qui a pris la pomme de terre. L'homme qui a pris, l'énergie avec laquelle il a pris ce monde de terre. Cet homme qui a appris à parler, la parole, quand il étudie la Torah, c'est une action. On a expliqué comment toutes ces choses-là, l'étude, quand je vais faire l'étude, je vais faire avec mes mains vont bouger, mes pieds vont bouger pendant que je vous parle, d'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est tous mes membres qui participent. Le plus de membres participent à l'étude de la Torah, et le plus on le retient. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut étudier la Torah de façon à entrer entièrement à 100% dedans, d'accord? Au point que tous les membres du corps participent, et c'est pour ça moi-même, des fois des gens ils étudient, ils sont en transpiration. Ça veut dire qu'ils sont très très sollicités. Ils sont en transpiration comme si qu'ils avaient couru. J'ai déjà vu ça. Tellement ils sont approfondis qu'ils transpirent. Ça veut dire que leur corps entier a vibré, leur corps entier transpire. Ça, une étude comme ça, t'es pas prêt de l'oublier. D'accord? En ce qui nous concerne, nous, on va essayer de vibrer notre étude, de vibrer, de la ressentir. Et Bezrat Hashem, on n'oubliera pas. Et on expliquera la semaine prochaine. Alors là, on va aller plus loin la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de qu'est-ce qui se passe avec les aliments une fois qu'ils sont entrés dans notre corps. Dans deux semaines, je suis pas lâché à New York. On va expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque, avec tous les aliments, ça, là, vous allez voir, on va aller encore beaucoup plus loin. Et Bezrat Hashem, on va
expliquer. Lundi prochain, c'est...
Vous savez, je vais terminer par une histoire.
Ah, peut-être qu'on aura quelqu'un.
Non, il n'y a personne sur le Seigneur. Terminer par une histoire. Une fois, il y a un juif qui est rentré en Yéridout chez le Rabbi, en entrevue privée chez le Rabbi. D'accord? Il a posé la question au Rabbi. Il a dit la chose suivante. Il a dit, mais comment on fait pour raffiner, d'accord, au final, nous, qu'est-ce qu'on est? On est plusieurs millions de juifs. Comment plusieurs millions de juifs peuvent raffiner des milliards d'habitants qu'il y a dans le monde, des milliards de Chinois? Il a parlé des Chinois, il a dit, mais comment moi, avec mon étude de la Torah, je peux raffiner un Chinois? Alors le Rabbi, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, regarde ton manteau. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton manteau? Il a vu son manteau, made in China. Tu vois, t'es couvert avec ton manteau maintenant quand tu me parles? Made in China. Maintenant, justement, toi, comment il a été fait? Made in China. Ça veut dire qu'il a été fait par qui? Par des Chinois. Ça veut dire que les Chinois ont collaboré à ton étude. Bon, mais ça, j'espère la semaine prochaine.
Regarde ce qu'il y a dans tes filles.
Ça veut dire qu'en vérité, à Rabotai, il faut élargir nos horizons. Élargir grandement nos horizons. Ça, c'est clair.